la cité. Vimayu avonotehem merubin, mais si leurs péchés sont plus abondants, arezo resha'a, c'est qu'elle est resha'a. Vechen kol haolam kulo, il en est de même pour le monde entier. Donc ça peut très bien arriver que vous avez individuellement une majorité de tzadikim, mais les péchés des resha'im pèsent tellement lourd que la cité est condamnée, bien qu'elle ait une majorité de tzadikim. Il peut y avoir exactement le contraire. Il peut y avoir une cité où il y a une majorité de Rechaïm, mais les tzadikim ont des mérites tellement importants que ça l'emporte sur l'ensemble des péchés, et donc la ville est acquittée. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le jugement individuel et le jugement collectif. Oui. Est-ce qu'un goy rachat compte comme un rachat? Est-ce qu'un goy est obligatoirement un rachat? Pour être rachat, on ne peut être rachat que si on a la possibilité d'être tzaddik. Exactement, parce que un volcan qui fait éruption et qui enterre des milliers de personnes en une journée, est-ce que le volcan est méchant? Est-ce que la pluie qui fait pousser le blé, est-ce que la pluie est généreuse? On ne peut être ni méchant ni tzaddik quand on n'a pas le choix. Donc pour définir quelqu'un comme méchant, il faut supposer qu'il avait la possibilité d'être tzaddik. Donc si tu dis qu'un goy est méchant, ça veut dire qu'il y a également un goy tzaddik. Sinon, il n'y a pas de méchant qui tienne. Une seconde, je reparle ici du présupposé du jeune homme qui a inventé n'importe quoi, mais c'est pas de sa faute, on lui a bourré la tête, en lui disant un goy est par définition méchant. Mais si c'était vrai, un goy est par définition méchant, donc il n'y a pas de méchant. C'est comme le volcan. C'est donc que si tu dis de quelqu'un qu'il est méchant, c'est qu'il a la possibilité d'être tzadique. Conclusion, il y a des goyim qui sont tzadikim, il y a des goyim qui sont rechaim, par définition. D'ailleurs, j'ai découvert que c'est la même chose pour les juifs. Il y a des juifs qui sont tzadikim, il y a des juifs qui sont rechaim. D'accord? Oui? Ça, maintenant, on peut revenir. Alors, chacun est tzadik ou rachat en fonction des exigences morales qu'on lui demande. Alors, chacun selon son niveau de connaissance, son niveau de... les 7 mitzvot, 613 mitzvot, etc. Ouais. Comment? J'en prie. Donc nous avons ici essayé d'éliminer une des séquelles de racisme métaphysique enseignée dans les écoles juives, malheureusement, qui n'a rien à voir, ce qui n'a absolument rien à voir avec la Torah. Donc je reprends ici ce que dit le Rambam. Le Rambam dit, le monde entier peut être méchant ou tzaddik, acquitté ou condamné. Alors si le monde existe encore, c'est qu'il y a pour l'instant plus de mérite, effectivement. Il est arrivé que le monde soit détruit. C'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, le déluge, je crois. Hein? Quand il y a eu le déluge, c'est que la majorité, il y avait une plus grande majorité de péchés que de mérites. Et donc le monde a été détruit. Oui? Oui? Que de mérites. Si. Oui, c'est ce que dit le Rambam. Et donc, on va voir que dans la réalité, ça ne marche pas. Mais dans le principe, c'est comme ça. Si. Mais non, le problème, c'est que dans la réalité, ça ne marche pas. Mais dans le principe, c'est ça qui est énoncé. Après, on va voir comment est-ce que ce principe marche avec la réalité. D'accord? C'est tout le problème du livre de Yov. Oui. Oui, donc la promesse que Dieu a faite de ne pas amener de déluge est très bizarre. Pourquoi est-ce qu'il a fait une promesse pareille? Si le déluge était mérité, c'était juste qu'il y ait le déluge. Et donc, si à nouveau l'humanité arrive à la dégradation de la génération du déluge, pourquoi il n'y aurait pas de déluge? D'accord? La question donc se pose sur cette promesse.
Il n'a pas dit qu'il ne pourrait pas le détruire, il a juste dit qu'il ne le détruirait plus par les eaux.
Oui, et que ça peut faire. Alors ça peut être détruit par le feu. Dans ce cas-là, ça n'a aucune importance, cette promesse.
Oui, mais c'est-à-dire que tu peux te
dire... Oui, mais une seconde. Si la promesse, c'est de ne pas détruire par l'eau, mais de quand même détruire par le feu, alors à quoi elle me sert, cette promesse? Elle ne me sert à rien. Hein? À quoi, hein?
À valoriser
L'eau ne servira plus à la destruction du monde. Mais le feu, moi par exemple, je fais partie du monde. Je suis intéressé à ce que mon monde ne soit pas détruit. Si on me dit, de toute façon, tu risques la destruction du monde par le feu, alors que ça peut me faire que ce n'est pas par l'eau?
Parce que l'eau, il veut faire sanctifier le monde. Il veut peut-être dire, je ne sanctifierai plus moi-même le monde.
L'eau sanctifie le monde et le feu, non.
Non, l'eau, ça fait le mikvé.
Oui, et le feu, ça ne fait pas le mikvé. Il y a un midrash qui dit qu'on peut, que si on pouvait rentrer dans le feu et en sortir, on ferait le mikvé dans l'eau. Un midrash? Un midrash, c'est les chachamim, mais...
Oui.
Oui. Oui.
Ça veut dire qu'on pourrait faire on pourrait choisir une province de ses victimes, profiter de ses mérites et volontairement s'insérer dans une province où on est jugé favorablement.
C'est intéressant, mais comme je n'ai pas encore répondu à la question que j'étais en train de poser, je suis dans l'incapacité de répondre à ta nouvelle question. Ceci pour une raison très simple, c'est qu'il y a une certaine déontologie qui est qu'on doit répondre à des questions et après en poser d'autres. Voilà, c'est tout. C'est une nécessité technique, mais enfin, c'est comme ça. Donc, je reviens donc à mon histoire du déluge. Ta question, c'était comment est-ce que Dieu a pu promettre de ne plus amener le déluge si le déluge était mérité? Et s'il était mérité par l'eau, alors pourquoi se contenter du feu? Même si on dit qu'il y a une différence entre l'eau et le feu. La réponse, c'est que quand Dieu a promis qu'il n'y aurait plus de déluge par l'eau, ça veut dire que il nous annonce que plus jamais l'humanité n'arrivera aussi bas. C'est-à-dire que quelque chose a changé dans l'être des hommes. Et donc, nous savons avec certitude qu'il ne pourra plus y avoir de déluge, puisque plus jamais les gens ne seront aussi méchants que ça.
C'est vicieux, parce qu'on pourrait penser alors qu'on peut relâcher la pression.
Oui, on peut relâcher la pression. On n'a plus l'inquiétude que nos péchés entraînent la destruction du monde par un déluge. Le feu, oui, c'est moins grave. Le feu, c'est moins grave que l'eau. Pourquoi c'est moins grave que l'eau? Donc, on ne pourra plus être condamné au déluge. Il peut y avoir des déluges locaux. Par exemple, le passage de la mer Rouge, ça a noyé les Égyptiens. Ah, ça, c'est la deuxième question, la question que j'ai posée par la suite. D'accord. Et quoi, pardon? Pourquoi, pardon? Ben non, c'est une question très importante. Quelle est la différence entre l'eau et le feu, bon flanc? Eh bien, c'est que l'eau, dit le Maharal de Prague, c'est la destruction de la forme. C'est la dissolution de l'être, totale. Tandis que le feu, ça conserve l'être. Nous disparaissons terrestrement, nous n'avons pas disparu dans l'absolu. Oui, c'est l'inverse. Non, pourquoi je te donne une réponse différente de celle que j'ai donnée tout à l'heure? C'est que, comme ma première réponse ne t'a pas satisfaite, alors je donne une réponse inverse. Comment? Ah, ben, j'ai repris un enseignement du Maharal. Le Maharal explique que l'eau, c'est cet élément qui fait disparaître la forme, qui efface. Eh bien, elle dissout. D'accord? Tandis que le feu, c'est ce qui fait passer d'une forme à l'autre. Ce sont des images, tout ça. C'est une métaphore. D'accord? Aujourd'hui, nous avons le moyen d'amener un déluge de feu dans le monde. Il suffit de d'appuyer sur quelques boutons, ça marche. Le monde est détruit par le feu. D'accord? Quoi? Oui, nous sommes capables donc de le faire. Et donc, il faut faire ce qu'il faut faire pour éviter que ça se passe. Donc maintenant, on en était à la troisième question. La première question était... Pourquoi la promesse du déluge? Quelle est la différence entre l'eau et le feu? Maintenant, c'était quoi ta troisième question? Je vais la répéter. C'est que dans ce cas-là, si effectivement, quand on est dans une ville, la majorité, une ville protégée par un tzaddik, par exemple, il y a un grand tzaddik, et on sait que ses mérites sont tellement énormes que ça va sauver la cité. Donc ça vaut la peine d'aller d'habiter dans sa cité, même si je suis méchant, n'est-ce pas? La réponse, oui, c'est vrai. D'accord? Le problème, qu'est-ce qui se passe le jour où le tzaddik meurt? Il faut se dépêcher. D'accord? Par exemple, les Chachamim ont dit que 7 jours avant le déluge, Metushelah est mort. Metushelah, c'est celui qu'on appelle en français Mathusalem. C'était le plus grand tzaddik de l'histoire. Il est mort 7 jours avant le déluge. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 jours? le monde aurait pu faire teshuva. Mais ils n'ont pas fait. Parce qu'il a empêché le déluge. C'est-à-dire, tant qu'il est vivant, Noah, c'est le tzadik qui mérite d'être sauvé du déluge. Metushelar, tant qu'il est là, il n'y a pas de déluge. Je suis là, pas de déluge qui tienne. D'accord ? Il soutient le monde à la manière d'Atlas. D'accord ? Il tient le monde dans ses mains. Oui ? Il a fini son rôle. Justement, être un tzaddik qui soutient le monde n'est pas une chose évidente. J'explique. Il y a deux manières d'être tzaddik. Il y a le tzaddik qui, par son être, est tellement fort qu'il empêche le déluge de venir. Mais ça pose un problème. C'est que, justement, ça permet aux autres d'être méchants. Donc, il faut que Metushelar parte. D'accord ? Pour pouvoir faire une avancée dans le monde. Oui. Est-ce que Metushelar était plus tzaddik que Noah? Disons, si on analyse ce que j'ai dit tout à l'heure, que Metushelar était d'une part le plus grand tzaddik de l'histoire, et que la différence entre lui et Noah, c'est que Noah ne pouvait être que lui sauver lui-même, il ne pouvait pas sauver le monde, alors que Metushelar pouvait sauver le monde. Il en ressort de ce que j'ai dit tout à l'heure, donc que Metushelar était plus grand tzaddik que Noah. Pourtant, malgré ta capacité d'analyser ce que j'ai dit, tu poses quand même la question. C'est donc que ma première réponse ne t'a pas satisfait. Donc je vais donner une autre réponse. Non, Metushelar n'était pas plus grand que Noah. Bien que mon option personnelle, c'est ma première réponse. Mais pour te faire plaisir, je donne une réponse inverse. Hein? D'accord. Non, c'est ça. Je suis toujours, disons, je suis prêt à venir au devant des demandes des élèves. Oui.
Comment la Bible peut être responsable pour les péchés d'un rachat si elle n'est pas au courant? On peut simplement ne pas savoir qu'il va faire un péché très grave et on va être puni pour ça.
C'est un autre problème qui te dit que c'est quand on ne sait pas.
Ah, donc si on sait, c'est.
Peut-être, on ne sait rien. Peut-être. On ne sait rien. Le Rambam n'est pas rentré dans le détail, donc c'est difficile à savoir. On parle ici d'un principe. D'accord ? Oui ? La question gigantesque du Rav Nahon est: comment peut-on parler de mérite ou de péché dans un monde où la Torah n'a pas encore été donnée? Par exemple, l'époque du déluge, n'est-ce pas? Oui. Je suppose que, Kvodara, vous avez une réponse. Non, je ne pense pas que c'est un rapport avec ça. Ça tout dépend de ce que l'on sait. On est jugé par rapport aux valeurs que l'on accepte. C'est-à-dire, si j'accepte sur moi une certaine valeur, je suis jugé quand je transgresse cette valeur. Or, des valeurs, il y en avait.
Et chacun
se absolument, absolument. C'est pour ça, par exemple, que la Guémara demande pourquoi est-ce que les Amé Aratzot, les ignorants, meurent. L'ignorant ne connaît pas la Torah. Donc s'il meurt, c'est qu'il a transgressé autre chose. Et la réponse de la Gemara, les ignorants meurent parce qu'ils appellent la synagogue maison du peuple et qu'ils appellent l'arche sainte l'armoire. Ça veut dire que ce qu'a accepté l'ignorant, c'est le respect de la Torah. Donc il est jugé quand il transgresse la norme du respect. Et ça explique aussi pourquoi, une autre question qui se pose, pourquoi est-ce que les goyim meurent? La Gemara le demande dans le traité de Makot. Pourquoi est-ce que les goyim meurent? Et la réponse de la Gemara, c'est parce qu'ils auraient dû, ils auraient dû apprendre et qu'ils n'ont pas voulu apprendre. Parce qu'ils avaient accepté d'apprendre. D'accord? Chez Ayalo Lilmod Velo Lamad. Et pourquoi est-ce que les tzadikim meurent? Les tzadikim meurent parce qu'ils ont transgressé la midat chassidut, des choses qui ne sont acceptées que par eux. Et donc, quand il transgresse cette midat chassidut, il meurt. Donc, on est toujours jugé par rapport à la norme que l'on connaît. Ce qui explique, par exemple, pourquoi le tinok chez Nishba, l'enfant captif, le nourrisson enlevé, n'est pas jugé pour ses transgressions. Oui ? Oui. Donc, c'est qu'il a... Comment se fait-il qu'un tzaddik meurt ? Oui, ça c'est le problème de la confrontation entre le principe et la réalité, dont nous avons déjà parlé et que nous avons dit que nous n'avons pas encore étudié ça. Oui ? Oui. Mais il aurait pu être arrêté. Il n'a pas tué un tzaddik. Metushelach est mort, c'est pas du tout la même chose. Non, il est mort par des voies naturelles. Il avait seulement 969 ans. Le pauvre, il est mort jeune.
Il est mort pour faire agir le peuple.
Non, sa mort permet de donner la place au peuple. Mais c'était trop tard. Oui ?
On sait que Hachem ne laisse pas le choix au rachat de devenir meilleur, parce qu'il y a pas un principe en bas.
Qui te dit qu'il ne donne pas le choix au rachat de devenir meilleur ? Oui. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est dans le principe. Or, il y a ici une contradiction entre le principe et la réalité. Comment concilier cette contradiction entre le principe et la réalité ? Ça, nous ne l'avons pas encore vu. D'accord ? Bon. On peut continuer ? Oui ?
Dernière question.
Est-ce que tu es sûr ?
Pour ce cours, en tout cas.
Oui, attention.
Du coup, il y a une sorte de cercle vicieux parce que si on sait que l'on ne sait pas assez et qu'on devrait savoir plus de choses.
Alors, on est jugé pour ne pas avoir appris.
Oui, c'est ça.
Mais seulement pour ça.
Ça ne s'arrête jamais, du coup, alors.
Oui, bien sûr. Ça ne s'arrête jamais. Quel est le problème ? Bah, il n'y a pas de problème. Bon, Adam chez Avonotav, Merubin al Zechuyotav. Un homme qui a plus de péché que de mérite. Miyad ou met berisho. Il meurt tout de suite dans sa méchanceté. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, al rov avoner, à cause de l'abondance de ton péché. Donc là, le Rambam prend des risques. Il nous dit,
celui qui est méchant,
donc le Rambam nous dit, celui qui est méchant, tout de suite, il meurt. Bizarre ça. Vechen, de même, Medina Shavonotea Merubim, une cité qui a une majorité de péchés, Mia di Ovedet, elle disparaît immédiatement. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, Zarkat Sedom Va'amora Kirabba Vegomer. Le cri de Sodome et de Gomorre est abondant, etc. Donc, quand Sodome, quand Dieu a dit, il a vu qu'il y avait une majorité de péchés à Sodome, il a détruit la ville. C'est vrai, ça ?
Il a sauvé quelqu'un.
Ça a pris quand même 6 heures. Hein ? En fait, ça a pris même 12 heures pour détruire Sodome. Parce que quand Dieu dit à Abraham, le péché de Sodome est abondant, c'est en fin d'après-midi. N'est-ce pas ? Arrivent les deux délégués à Sodome, se font inviter par Lot, il se passe des choses terribles. Finalement, au lever du soleil, enfin au début de l'aube, Lot est emporté en dehors de la ville pour le sauver et détruire la ville. Donc ça a pris un peu plus de 12 heures. C'est quoi donc c'est immédiatement ? En 12 heures, on pouvait faire pas mal de mal à Sodome.
Peut-être que la présence de Lot, elle est équivalente à celle de...
Donc c'est pas vrai ce que dit le Rambam, il dit Miyad.
Après le délai de Teshuvah, alors.
Après le délai de Teshuvah. Donc on doit supposer un délai de Teshuvah. Ou bien, oui.
Par exemple, quand tu as dit, quand le tzaddik est mort, ils ont eu 7 jours pour faire Teshuvah avant le début.
Oui.
Là, ils ont eu
12
heures pour faire Teshuvah.
Oui, d'accord. Donc il y a un délai. Donc c'est pas le mot immédiat du Rambam est à relativiser. C'est pas vraiment immédiat, c'est presque immédiat. Mais un presque, ça peut prendre beaucoup de temps. Par exemple, et ça peut avoir des conséquences absolument catastrophiques. Imaginez par exemple l'Allemagne nazie était très méchante. L'Allemagne nazie a été détruite immédiatement, mais ça a pris du temps. Puisque ça a pris du temps, alors il y a eu la catastrophe. Il y a une différence entre l'immédiat d'en haut et l'immédiat d'en bas. C'est comme si, par exemple, vous prenez une pièce de monnaie et vous la mettez en hauteur, face au soleil. Elle donne de l'ombre sur le sol. L'ombre sur le sol est plus grande que la taille d'une pièce de monnaie. N'est-ce pas ? C'est une image employée par la Guémara dans le traité de Souka. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont immédiates dans l'absolu, mais dans la durée temporelle, ça prend du temps. Oui ? On peut dire même plus que ça. La destruction est immédiate. La destruction dans l'absolu. En haut. C'est détruit en haut, mais ce n'est pas détruit en bas.
Elle est actée.
Comment ?
Elle est actée, en fait.
Oui, exactement. Il y a à propos de ça une très belle image, terrifiante, du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Vous connaissez Rabbi Moshe Chaim Lutzato ? Vous ne connaissez pas ? C'est l'auteur de ? Du Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim est un livre bien connu dans les Yeshivot. Il y a simplement le fait important que Ramchal a écrit 80 livres. Le Messilat Yesharim est un d'entre eux. Il vous en reste donc combien ?
79.
Ne vous en faites pas, seulement 40 sont arrivés à nous. 40, nous savons leur existence, mais ils ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Donc il nous en reste combien ?
39.
39. Bon, alors, un des 39 livres du Ramchal, c'est Ma'amar HaGeoula, un précis sur la délivrance. Ma'amar HaGeoula, un livre kabbalistique dans lequel il explique comment va se faire la Geoula. Et il parle là-bas, 200 ans à l'avance, il parle de la Shoah. Il explique comment ça va se passer. Intéressant, n'est-ce pas ? Un livre 200 ans avant la Shoah qui nous explique comment ça va se passer.
Explicitement ?
Ah, explicitement. Il explique la chose suivante. Il ne parle pas des camps de concentration, il ne parle pas du gaz, il ne parle pas des nazis. Mais il explique qu'est-ce qui doit se passer à un moment. Il dit des choses absolument incroyables. Il emploie des images. Hein, ce sont des images qu'on va devoir comprendre. L'image du portail et des fenêtres. Le portail et les fenêtres. Les fenêtres, Windows. D'accord ? Rien à voir d'ailleurs avec le logiciel, mais en tout cas, il y a le portail et les fenêtres. Il dit, lorsque Israël connaissait la présence de Dieu sur sa terre, à l'époque du Temple, il y avait un grand portail qui faisait passer la lumière divine dans le monde. Et le monde était illuminé de lumière. Hein ? C'est beau, hein ? Je n'ai pas compris. Est-ce que je peux répéter ? Mais bien sûr que je peux répéter. Tu remets en doute. J'ai dit simplement que le Ramchal nous dit que lorsque la présence de Dieu était parmi nous, il y avait un portail qui était ouvert et qui faisait passer la lumière divine dans le monde. Et donc le monde était illuminé de lumière. Et puis, quand nous sommes partis en exil, le portail s'est fermé. Mais la lumière passe par des fenêtres. Des fenêtres. Ou par des petites lucarnes. Ainsi qu'il est dit dans le Shir HaShirim, Mashgiach minachalonot, metzitz minacharakim. Il observe par les fenêtres et il regarde par les interstices. D'accord ? C'est-à-dire que le monde tombe dans l'obscurité, mais pas l'obscurité totale, parce qu'il faut quand même que la providence s'occupe du monde. Donc il y a des fenêtres. C'est ce qu'on appelle le gouvernement des fenêtres, même Shelet Achalonot. Et puis il dit, au moment de la Géoula, le portail doit s'ouvrir à nouveau. Mais comme une royauté ne l'empiète pas sur une autre royauté, il faut d'abord fermer les fenêtres. Et donc on les ferme les unes après les autres, et le monde devient de plus en plus obscur. Jusqu'au moment où sera fermée la dernière fenêtre, mais immédiatement sera ouvert le portail, parce que sinon le monde ne pourrait pas tenir. Et donc le fait, au moment même où se ferme la fenêtre, le portail s'ouvre. Il dit, donc, c'est imperceptible. Cependant, il dit, ça c'est vrai dans le monde d'en haut, mais dans le monde d'en bas, ça prend du temps. Et donc, ça sera un moment terrible qui ne durera pas longtemps, et dont le roi David a dit « Pourquoi, Dieu, te tiens-tu si loin ?» D'accord ? C'est ça qu'il dit.
Vous savez que c'est pas quelque chose d'autre que la foi.
Parce que c'est ça qui s'est passé. Le portail a été ouvert en 1948 et on a vu que les fenêtres se sont fermées en 1940. Hein ? Hein ? L'Hashgacha. La providence. C'est de plus en plus caché. Et dit le Ramchal nous dit que c'est, le roi David a dit que ce moment qui sera court sera terrible. D'accord ?
Donc vous insinuez que le portail est ouvert ?
Je n'insinue absolument pas que le portail est ouvert. J'affirme que le portail est ouvert. Non, Gog ou Magog, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Gog ou Magog, c'est autre chose. Ça s'appelle le Révélé Mashiach, mais c'est pas. Oui. Oui, exactement. Est-ce que ça aurait pu être évité ? La réponse est oui, ça aurait pu être évité, mais ça c'est le sujet d'une autre étude. D'accord ? Oui. Oui, et tout. Non, ça veut dire que le portail s'ouvre d'un seul coup. Non, elle n'est pas éteinte, parce que. C'est, disons, dans l'absolu, il y a pas de, ça se touche, bien que ce ne soit pas identique, ça ne se chevauche pas, mais c'est, ça se touche. Donc, il n'y a pas d'espace. Mais ce pas d'espace se traduit dans le monde de la durée comme un espace de temps. Et donc, ça crée une situation dans laquelle il y a fermeture des fenêtres et ouverture du portail peu de temps après. Oui. Est-ce que ça aurait pu être évité ? Oui, bien sûr, ça aurait pu être évité, mais ça, c'est le sujet d'une autre étude. Comment fait-on pour éviter ce genre de choses ? Oui ? Oui ? Quelle est la question ?
La question, c'est que c'est un moment, si le portail s'ouvre alors que le Mashiach.
Le Mashiach ?
C'est si le portail s'ouvre.
Ça veut dire qu'il y a la Géoula, oui, la Géoula. Un des éléments de la Géoula, c'est le Mashiach. C'est un des éléments, ce n'est pas le seul élément. L'élément fondamental qui définit une période comme étant Géoula, c'est l'indépendance politique. Or, ça, nous l'avons eu en 1948. Oui ?
Quelle est la différence entre la lumière qui est dans le monde, dans ce portail, et celle qu'il y avait avant les 4 de la Shoah, en 1930 et maintenant ?
Ben, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un point intéressant. Tu sais, il y a eu une accusation lancée contre le peuple juif pendant 1900 ans. C'est que les juifs ont tué Dieu. Tu connais cette accusation ? Ça s'appelle en français le déicide. D'accord ? Cette accusation a été colportée dans le monde civilisé pendant 19 siècles par le christianisme. Le christianisme a affirmé, vous êtes des déicides, vous avez tué Dieu, et donc vous êtes coupables. Absurdité totale, comment est-ce qu'on peut tuer Dieu ? Et pourtant, ça a été affirmé pendant très longtemps, jusqu'au concile de Vatican II, et lorsque le pape a levé l'accusation de déicide. Les juifs ne sont plus accusés de déicide. Merci beaucoup, vous avez fait des pogroms pendant 1900 ans, sur la base de quelque chose, ah non, excusez-nous, on s'est trompé. Il faut comprendre comment ça a pu se... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est simplement que les goïms, pendant 1900 ans, avaient raison. C'est-à-dire que la Shekhina a disparu du monde. Pourquoi est-ce qu'elle a disparu du monde ? À cause de l'exil d'Israël. Et comment est-ce qu'on traduit cette absence de la Shekhina en termes de mythologie païenne ? Ça s'appelle « ils ont tué Dieu ». Et donc, quand on est revenu, ils ont ressenti instinctivement qu'ils ne pouvaient plus dire une chose pareille. Donc, ils ont aboli ça. Donc, ils ont ressenti, avant nous, le retour de la Shekhina. Si. Vatican II, c'était en 1961, un truc comme ça. Voilà. Oui. Ah, ça, j'ai dit que c'était le sujet d'un autre cours. J'ai dit que ça aurait pu être évité et que c'était le sujet d'une autre étude. Je l'ai déjà dit deux fois pendant le cours. Donc maintenant, la question est posée pour une troisième fois. Ah, justement, c'est là qu'il y a un problème. Comment donc, comment est-ce que ça aurait pu se faire en ouvrant le portail quand même? D'accord. Là, c'est une très bonne question qui est le sujet d'une autre étude. D'accord? Oui. Ça prouve la nécessité d'une autre étude. D'accord? Bon. Donc, en fait, c'est ça tout le problème du livre de Iov. Il y a un livre dans le Tanakh qu'on appelle Iov, en français Job. Et si vous voulez, c'est un travail. D'accord? Et le livre de Iov nous parle du problème de ce qu'on appelle la souffrance du juste. Il y a quelqu'un qui est tzaddik, absolument tzaddik, et qui a toutes les souffrances du monde. D'accord? Alors, le plus simple, c'est la position qui consiste à dire, oui, vous croyez qu'il est tzaddik, en vérité, il a quelque chose à se reprocher, et donc il le mérite. D'accord? Ça, c'est l'approche superficielle. Donc, vous voyez quelqu'un qui a des malheurs, vous dites, ah, si tu as des malheurs, c'est que tu les mérites. Pourtant, le livre de Iov, qui fait partie du Tanakh, refuse cette interprétation, qui est l'interprétation des amis de Iov qui viennent lui expliquer pourquoi il souffre, et lui dit, non, c'est pas vrai, vous inventez n'importe quoi. Ils sont très choqués de la réaction de Iov, il dit, donc tu es un hérétique. Et finalement, Dieu apparaît à Iov et lui dit, tu as raison. Tu as raison, mais tu as tort quand même. Il lui explique ce qui s'est passé. Mais quand il lui explique ce qui s'est passé, il ne fait que lui poser des questions. Et Iov dit, ah, maintenant j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Il a compris qu'en fait, les souffrances étaient là pour instaurer un dialogue entre lui et Dieu. Et si Iov avait accepté les explications de ses amis, il n'aurait jamais eu cette conversation. Ce qui veut donc dire que pour comprendre la souffrance, il faut parfois arriver à des sphères d'entendement beaucoup plus larges. Mais le problème du tzaddik, c'est que le tzaddik vit selon des valeurs qui sont contraires à la réalité. Dans la réalité, il y a le destin, il y a la nature. Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose? Oui, tu avais levé la main. C'est que tu voulais dire quelque chose?
Non, vous nous avez dit que alors, non, le portail était ouvert avant la fin.
Avant?
Avant que les fenêtres soient ouvertes, il y avait le
portail. Non, pas avant. Juste à la fermeture de la dernière fenêtre, s'ouvre le portail.
Mais le portail, il est ouvert. Hein,
ah, dans l'Antiquité, oui. Oui, il a été fermé. Ah, c'était le Khurban, c'était la destruction du Temple, c'était aussi une catastrophe terrible. Il y a eu, rien qu'à Jérusalem, plus d'un million de morts lors de la conquête de Jérusalem par Titus. D'accord? Et après, pendant l'exil, il y a eu des morts, mais pas autant. C'est-à-dire, il y a, au moment du passage d'une providence à l'autre, il y a des catastrophes. Mais ces catastrophes peuvent être évitées. Comment? Ça, c'est le sujet d'une autre étude. Mais je vais vous donner quand même la réponse. Puisque vous en avez plus insisté. Il y a un livre dans le Tanakh qui nous parle d'une Shoah qui a été évitée. Hein? Esther. L'histoire d'Esther, de Pourim. Il y a là-bas une Shoah, tout à fait orchestrée par quelqu'un, par un État, qui domine tous les Juifs du monde, et qui est bien organisé, et finalement ça a été évité. Comment ça a été évité? En réunissant les Juifs. C'est ce que dit Esther à Mordechai, l'air qui est dans cette kol ha-yehudim, il faut que tu rassembles tous les Juifs qui sont à Shushan, ce qu'ils pouvaient donc atteindre à ce moment-là, et vous allez jeûner pendant 3 jours. Mais le point fondamental, il n'y a pas écrit là-bas Teshuva, il y a écrit simplement 3 jours. Pendant ces 3 jours, vous vous réunissez, et alors je pourrai aller voir le roi. Ce qui veut donc dire que s'il y a unité au sein du peuple, alors on peut éviter la catastrophe. Ou en tout cas, ça voudrait dire qu'elle serait limitée à quelque chose d'à peine perceptible. D'accord? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment d'obscurité, mais ce moment est très faible. D'accord? Bon, je reviens ici au Rambam. Oui? Non. 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 Non.
Elle peut être empêchée.
Exactement. La Shoah est une chose à laquelle on peut être exposé. Pour quelles raisons? Il y a des raisons tout à fait métaphysiques qui n'ont rien à voir avec le péché. Mais elle peut être évitée par l'unité. Oui?
Elle a quand même un rapport avec le péché. Il y en a qui disent que la Shoah, c'était par rapport à certains péchés des Juifs.
Est-ce que c'est ce que j'ai dit?
Vous avez dit qu'il y a d'autres raisons, il y a des raisons métaphysiques.
Oui, mais pourquoi est-ce que j'ai dit le péché? Est-ce que moi j'ai dit le péché? Je te pose la question. Est-ce que moi j'ai dit le péché comme cause de la Shoah?
Non.
Non, d'accord. Donc je ne l'ai pas dit. D'accord? Hein?
Ma question c'est ça, justement. Est-ce que la Shoah elle peut être causée par le péché?
Non.
C'est pas une punition.
Non. D'accord? Bon. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, telle ou telle personne a trouvé son compte dans la Shoah. Mais ce n'est pas ça la raison de la Shoah. Ça serait, disons, blasphématoire. Ça voudrait dire que si on dirait que la Shoah, comme certains l'ont pensé, serait le fruit de l'accumulation des péchés, ça transformerait le bon Dieu en un épicier énervé. Parce que une fois que la dette est trop grande, alors il va faire un scandale. D'accord? Il va brûler la baraque. D'accord? C'est pas un bon Dieu, ça. Bon. Oui? Il y aurait de toute façon l'exposition à ce risque. Bon, je continue. C'est comme quand on passe à côté d'un câble de haute tension qui est tombé sur le sol. Si on le touche, ça va mal. On n'est pas obligé de le toucher. Mais le risque est là. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vechen kol haolam kulo, de même le monde entier. Imayu avonotem et rubim isruyotem, si le monde entier a plus de péchés que de mérites, miyad en nishratim, ils sont immédiatement détruits. Shenehemar, ainsi qu'il est dit, vayar Hashem ki rabba ra'ata adam ba'aretz, quand Dieu a vu qu'il y avait abondance de péchés de l'homme sur la terre. C'était quoi? C'était des juifs ou des goïms? C'était des goïms. Donc, il y a des goïms méchants et des goïms tzadikim. Veshikulze, eno lefi minyan azechuyot ve'avonot, et là lefi godlam. Là, le Rabbam nous ajoute un élément très important. Cet équilibre n'est pas acquis par le nombre des péchés ou le nombre des mérites, mais par leur grandeur. Yesh zechut, shi keneged kama avonot. Il y a un mérite qui l'emporte sur beaucoup de péchés. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Yan nimtsabo davartov, parce qu'on a trouvé en lui une bonne chose. Veyesh avon shu keneged kama zechuyot. Il y a un péché qui l'emporte sur beaucoup de mérites. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vechote echad yabet tova arbe. Un seul péché peut faire perdre beaucoup de bonté. Alors maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Donc il faut savoir, pas seulement le nombre des péchés et des mérites, il faut également savoir leur grandeur. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir? J'en sais rien, il faut voir la suite. Ve'en shoklin ela beda'ato shel el de'ot. On ne pèse que selon la connaissance qu'en a le Dieu des connaissances. Ve'hu ayodea, c'est lui qui sait. Et ach orchim azechuyot kenegeda avonot. Comment évaluer les mérites par rapport au péché. Donc, pour savoir comment juger quelqu'un, il faut avoir des connaissances que nous n'avons pas. Hein? Orchin. Comment est-ce qu'on dispose? D'accord? La aruch shulchan, c'est poser la table. D'accord? Shulchan aruch. Orchin. Donc, c'est lui qui sait comment on dispose les mérite par rapport au péché. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes dans la totale impossibilité de savoir? Il y a des cas où on peut savoir. Mais ce sont des cas exceptionnels. Donc, si quelqu'un voit quelque chose qui se passe et vous dit « ça s'est passé à cause de ça », alors, en fait, il dit n'importe quoi. Comment il sait? Maintenant, c'est intéressant ce qu'il dit là. C'est-à-dire que, puisque le monde entier peut être dans l'équilibre, si je fais, moi, un péché de plus, j'entraîne la destruction du monde entier. Et si je fais un mérite de plus, j'entraîne la vie du monde entier. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il y aurait une sorte de solidarité entre l'individu et le monde entier. Oui ?
C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'un homme, par exemple, tu serais apte à dire, à cause de ça, ta vie sera. Là, on dit qu'il y a Isaac et Ganida.
Oui ?
Isaac et Ganida, du coup, ben, si t'as fauté avec ta mort, tu vois, tu vas avoir malade dans la mort.
Oui, j'ai compris.
Quand on fait une réa, par exemple, on va vous évoquer quelqu'un, alors on risque de recevoir quelqu'un, on va s'occuper de nous.
Oui, alors.
Apparemment, on pourrait dire.
Oui, mais c'est pas comme ça. Parce qu'il y a ici un mélange. Il y a un problème. Par exemple, quelqu'un qui est Hayav Karet. D'accord ? Un des éléments du Karet, c'est que l'on meurt avant d'avoir 60 ans. Les Tosfot demandent, comment se fait-il que nous avons vu des gens qui ont transgressé des Karet et qui pourtant ont vécu plus que 60 ans. Hein ? C'est pas ça que dit le Tosfot. Hein ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un mérite qui fait que le karet a été équilibré. C'est-à-dire que quand on dit le karet entraîne ça, c'est si on l'isole. Mais il y a, personne n'est isolé. Nos actes sont toujours insérés dans un ensemble d'actes. Ce qui fait que le jugement est difficile à faire. D'accord ? Mais à partir du moment où vous avez 60 ans, vous pouvez manger du Hametz à Pessah, ça y est, pas de problème. D'accord ? Oh, non, je ne faites pas. Oui ?
Juste parce que vous dites, c'est par rapport à l'oubli à l'époque du tribunal juridique.
Oui ?
Il y avait encore un tribunal qui s'occupait de ça. Alors, comment ils pouvaient prendre une décision juridique ?
Ah, parce que le jugement juridique qu'on fait dans le tribunal d'en bas n'a rien à voir avec le jugement de Dieu. Si, si, bien sûr, on peut très bien décréter que c'est la loi. Quelqu'un qui a fait telle et telle chose est coupable de mort, il sera puni de telle et telle chose, parce que c'est la loi.
Et on ne tient pas compte des mérites de...
Ça n'a rien à voir avec les mérites qu'Akadosh Baruch Hu lui compte, etc. Ça, c'est un autre problème. D'accord ? Donc il y a le tribunal d'en haut et le tribunal d'en bas. C'est pas la même chose. Et donc, on ne peut pas toujours savoir ce que ça représente. En tout cas, donc, ça veut dire qu'il y a un équilibre, que cet équilibre peut être rompu dans un sens ou dans l'autre, par chacun d'entre nous. D'accord ? C'est comme par exemple dans des élections. Si vous avez deux blocs dans les élections, vous avez deux blocs, opposition et coalition, qui sont à l'égalité, chacun, par son vote, peut emporter toute l'histoire.
Comme ça et pas comme ça,
c'est tout ça, c'est
comme ça et pas comme ça.
J'en sais rien, quel rapport avec comme ça et pas comme
ça.
Non, ça n'a rien. Tov, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.